franceinter.fr.
Bonjour, climat. Chine et États-Unis tiennent leurs promesses, ils ratifient l'accord de Paris. Quid des Européens? Eh bien, on les attend. Seulement deux pays, dont la France, l'ont ratifié. Mère Teresa, canonisée 20 ans seulement après sa mort, le pape François voit en elle l'incarnation de l'Église qu'il vénère, pauvre parmi les pauvres. Unité affichée à l'université d'été du Parti Les Républicains, les militants approuvent. Si on veut gagner la présidentielle, il faut réussir la primaire. Vous les entendrez. Nous irons en forêt de Rambouillet pour le rassemblement annuel des électro-sensibles. Et à l'US Open, où Gaël Monfils est l'une des trois chances françaises de qualification pour les quarts de finale.
France Inter.
En marche, l'expression est à la mode en ce moment. Elle s'applique en tous les cas à l'accord sur le climat signé à Paris à l'issue de la COP21, tout particulièrement depuis hier, depuis que les deux plus gros pollueurs de la planète, Chine et États-Unis, ont annoncé qu'ils le ratifiaient. Pour être appliqué, le texte qui prévoit de limiter au moins de 2 degrés le réchauffement doit être signé par 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre. À eux seuls, États-Unis et Chine, c'est 40% de ces émissions. On attend maintenant l'Inde, la Russie, le Canada et les Européens. Seuls deux pays de l'Union l'ont ratifié, la Hongrie et la France. Pour Célia Gauthier, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat, c'est un sérieux problème.
Alors qu'on était vraiment des leaders mondiaux en matière d'énergie renouvelable, on est en train de prendre beaucoup de retard. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui n'ont pas encore compris que la transition énergétique était en marche au niveau mondial, que c'était vraiment le sens de l'histoire. Et donc, ils n'investissent plus là-dedans, ou pas assez. Et par exemple, alors que la Chine et les États-Unis sont en mesure de ratifier aujourd'hui, l'Europe, elle, ne le fera pas cette année, peut-être plutôt en 2017, ce qui est assez peu rassurant quant au rôle de futur de l'Union européenne en matière climatique au niveau mondial. L'Union européenne risque d'être reléguée au rang des États qui ne font pas grand-chose et pas vraiment avoir son mot à dire dans les discussions internationales sur le climat.
Ce qui serait un comble après la réussite de la COP21 à Paris en décembre dernier. François Hollande, en tous les cas, garde espoir après les ratifications de la Chine et des États-Unis. Il espère une entrée en vigueur de l'accord à la fin de l'année. François Hollande qui est arrivé à Hangzhou pour le premier G20 qui se tient en Chine. Programme chargé pour les grandes puissances, guerre en Syrie, économie mondiale à la peine. Le président français souhaite insister, lui, lors de son dernier G20 du quinquennat, sur le fléau de l'évasion fiscale. En tous les cas, même à des milliers de kilomètres de Paris, ses oreilles vont siffler car dans le journal du dimanche ce matin, Emmanuel Macron a cette phrase à propos de l'action du gouvernement qu'il vient de quitter. On a fait beaucoup de choses à moitié. Emmanuel Macron, qui sera le premier invité de la nouvelle émission politique de France Inter, en partenariat avec Le Monde et la chaîne France Info, chaque dimanche, aujourd'hui donc, de midi à 14h, avec vos questions, les auditeurs, sur Twitter, hashtag question Paul, ou encore par téléphone 01 45 24 7000.
Du côté du Parti Les Républicains, on enterre la hache de guerre.
Pour un temps, en tous les cas, tout sourire hier à la boule à l'université d'été du parti, les candidats à la primaire, Juppé, Fillon, Le Maire ou encore Mariton, pas question d'apparaître comme le premier des divisions. Au grand soulagement des militants présents, Estelle Schmitt.
C'est un petit groupe qui converse sous une tente blanche à l'abri du soleil. Le sujet, évidemment, la primaire. Ces jeunes ne soutiennent pas les mêmes candidats. Amandine votera pour Nicolas Sarkozy. Elle redoutait les attaques personnelles dans les discours.
J'appréhendais un petit peu en arrivant au campus que chaque candidat fasse des petites phrases contre un tel ou un tel. Et au final, je trouve que le débat a été assez respectueux. Chaque candidat a été à sa place.
Critiquer les idées, mais pas les personne, car le but du parti, c'est avant tout de remporter la présidentielle et gouverner. Martel Romain, soutien de Bruno Le Maire.
On travaille tous pour la même cause, on aspire tous à remplacer la gauche qui est au pouvoir, donc la seule façon d'être élu, finalement, c'est l'unité du parti. On joue pour la même équipe, et selon moi, ce serait important que les candidats le comprennent.
Message directement adressé à François Fillon, le plus virulent de ce début de campagne, un candidat soutenu par Martin, qui tente de le défendre auprès du groupe.
C'est un peu les dommages collatéraux d'une campagne. Je pense que c'est une mise au point. Ça a été fait une fois, ça se fera pas deux fois. C'est mon candidat, j'étais pas gêné. Il a sa liberté de parole et l'intérêt, c'est le gros du discours.
Les militants attendent aujourd'hui les deux derniers discours de candidats, ceux de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Nicolas Sarkozy. À la boule, Estelle Schmitt, France Inter.
De son vivant, on l'appelait la sainte des caniveaux. Elle va devenir officiellement aujourd'hui à Rome sainte Teresa, mère Teresa, canonisée aujourd'hui par le pape François devant 100 000 fidèles, une douzaine de chefs d'État. Lancée par Jean-Paul II, la procédure s'est accélérée avec le pape François, car il voit en celle qui a consacré sa vie en Inde aux plus rejetés de la société l'incarnation de l'Église pauvre parmi les pauvres. Pour le père dominicain François Daguet, celle qui fut prix Nobel de la paix est aussi une figure universelle.
Moi, j'ai le sentiment que Mère Teresa, c'est un peu, pour notre époque, ce que François d'Assise a été dans son temps. C'est-à-dire une espèce de radicalité évangélique au cœur d'un monde en pleine transformation et qui témoigne du primat absolu, si vous voulez, de la charité et de l'amour. Et d'ailleurs, la preuve en est, et c'est ça qui me frappe beaucoup, c'est que Mère Teresa, comme François d'Assise, touche les cœurs très au-delà du monde chrétien. On le sent très très bien, on le perçoit très très bien. Il y a des tas de personnes qui sont plus ou moins proches ou éloignées de la foi chrétienne, ou qui sont même pas chrétiennes, qui sont très touchées par la personne de Teresa, comme François d'Assise, à toutes les époques, touche des cœurs extrêmement différents, chrétiens ou non chrétiens. Et ça, je crois que c'est cette puissance, vous voyez, cette perception d'une charité si forte, si vive, qu'elle renverse toutes les frontières, toutes les barrières.
Interview recueillie par Frédéric Bourgade. La messe de canonisation de Mère Teresa doit commencer à 10h30 ce matin à Rome. L'affaire du lactarium d'Île-de-France, 3 grands prématurés infectés par une bactérie, 2 sont morts. Une enquête est ouverte pour établir les causes, les responsabilités.
En sport, 2 échecs tricolores à l'US Open, mais tout n'est pas perdu pour les Français.
Oui, parce que si Caroline Garcia, Nicolas Mahut ont été éliminés au 3e tour, l'une battue par la Polonaise Radwanska, l'autre par le Japonais Nishikori, 3 Français aujourd'hui jouent pour une place en quart de finale. Tsonga face à l'Américain Sock, Lucas Pouille qui aura l'honneur du central face à Nadal et on attend tout particulièrement face au Chypriote Bagdatis, Gaël, mon fils qui n'a perdu aucun set depuis le début du tournoi.
J'y pense pas forcément parce que souvent on se demande la réussite, mais de toute façon si je perds, on va me dire quoi. Il n'y a pas de réussite dans le sport, il faut être là au moment important, quoi, voilà. Est-ce que jouer Marcos Bagdatis, c'est plus facile que jouer Raonic, ça restera un match de tennis, il faut être présent au jour J, quoi, entre guillemets. Il y a un moment, il faut un peu de chance, mais au final, le match, il faut aller le gagner. Si tout de suite, on me dit, bah voilà, je suis sûr de gagner contre Marcos Bagdatis, les gars, je signe, hein, mais j'ai l'impression que je vais quand même courir et je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner et que je ne streamerai pas forcément ce match. Vraiment, ça va être un gros match et je sais qu'il va jouer sa carte à fond, quoi.
Gaël, mon fils, au micro de Jérôme Val en rugby dans le top 14. Sensation hier soir, elle est venue de Brive qui s'est imposée à Toulon et qui vire en tête du championnat. Direction maintenant la forêt de Rambouillet en Île-de-France. C'est là que se réunissent aujourd'hui ceux qui, depuis quelques années, ont trouvé un nom à leur mal, l'électrosensibilité. Ils sont de plus en plus nombreux, 3000 en France, selon l'association Priatem, qui alerte sur ce phénomène qui est pour elle un phénomène de santé publique, apparu avec les ondes qui envahissent notre quotidien, portable, wifi, ampoule nouvelle génération. Donc, grand rendez-vous annuel aujourd'hui. Pourquoi en forêt, la fourmi ?
Et le lieu n'est pas anodin. Les grands arbres de la forêt, à plusieurs kilomètres des villages alentours, protègent un peu des ondes. Pourtant, Rémi a les yeux rivés sur un drôle d'engin.
Bah, ça monte, hein, oui. 0,0179. C'est un appareil de mesure, donc.
Même si le détecteur de Rémi est encore dans le vert, lui ressent les ondes. Cet ancien commercial breton a dû tout lâcher à cause de son électrosensibilité.
Au début, effectivement, on comprend pas. On pense que c'est du surmenage. Et puis, c'est des maux de tête, c'est des coups d'aiguille dans les oreilles. Puis, arrive un moment, faut se mettre à l'abri, faut arrêter de travailler. C'est plus possible.
Comme Rémi, ils sont nombreux à avoir perdu leur boulot et certains sont même contraints de vivre dehors, souvent dans leurs voitures qui font barrière aux ondes. Mais ils passent parfois pour des huluberlus, des excentriques, ce qui révolte Françoise, la quarantaine.
Nos familles ont beaucoup de mal à comprendre, et je comprends. C'est très difficile de se dire des antennes qui te polluent la vie. Mais oui, ces antennes, elles nous polluent la vie. Ce qui est très important, c'est de penser aux enfants avec le Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin de Wi-Fi quand vous dormez, éteignez.
Ce qui les inquiète maintenant, ce sont les tablettes numériques dans les écoles, l'installation généralisée de compteurs Linky ou encore les nouvelles ampoules. Autant de sources d'ondes néfastes, d'après Sophie Pelletier, porte-parole des électrosensibles dans la Sopriartem.
Je vois beaucoup d'intérêt économique. On est dans une situation de scandale sanitaire larvé et nous, on est là pour dire le verrou, il faut le faire sauter maintenant.
Voilà pour les mauvaises ondes. Maintenant, les bonnes ondes. C'est dans le studio de France Inter avec Patricia Martin.
Moi, je connais le nom de mon mal, en tout cas.
Je ne vous le demande pas.
C'est Alain Baraton. Oh. Merci Bernadette Jamonas. Vous revenez à 9h ?
Oui, tout à fait.
À tout à l'heure.